Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Bonjour et bienvenue à l'actualité économique du jour. La réforme de l'assurance chômage est sur pause depuis hier soir. C'est le Premier ministre qui a suspendu la réforme. On affirme à Matignon qu'elle n'est pas enterrée. Bon, en tout cas, un vide juridique a été comblé ce matin en publiant au journal officiel un décret de jointure, car les règles actuelles de l'assurance chômage, faute de décret, s'éteignaient au petit matin. Donc les affaires courantes de l'UNEDIC sont bien sûr assurées, les indemnités restent versées, mais il n'y a plus de réforme dans les tuyaux. On a pas mal parlé d'économie pendant cette campagne, mine de rien. Enfin, ici, bien sûr. Et la réalité, on voit que l'on rase gratis, les promesses de gauche n'ont pas fait rêver. Elles ne font plus rêver. La réaction de marché, évidemment, c'est un sujet qui nous préoccupe. La BRI s'inquiète des risques de perte de confiance sur les marchés obligataires. Elle a remis son rapport économique annuel hier et à l'approche du premier tour des législatives, la prime de risque sur nos obligations tricolores avait atteint un plus haut niveau depuis 2012. Ça a été le chiffre de la fin de la semaine dernière, 2,1% en rythme annuel. C'est l'inflation au mois de juin, a indiqué l'INSEE. Peut-on considérer qu'on a enfin gagné cette bataille contre l'inflation? Je poserai la question. Et puis un rapport impressionnant a été remis au maire de Londres sur le coût du Brexit. Vous verrez, les chiffres sont assez édifiants au moment où l'ineffable Nigel Farage refait surface en Grande-Bretagne. Bonjour Gaëlle Mac.
Bonjour.
Bienvenue, directrice déléguée de la rédaction de Challenge, à la une du Challenge de cette semaine. La folle facture avec les programmes du RN et du NFP. Et puis, vous avez fait une addition en reprenant les principales mesures économiques sur la retraite, la TVA, les exonérations de cotisations salariales, le blocage des prix et l'augmentation des fonctionnaires. Avec nous, Léonidas Kalogeropoulos, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue, PDG de Médiation et Arguments, délégué général de l'Open Internet Project. Et vous avez fondé les Entrepreneurs pour la République, la place de marché qui apporte des solutions concrètes d'entrepreneurs aux enjeux du pays. Christian Parizeau, bonjour.
Bonjour.
Il est élevé depuis 4 heures du matin, Christian. Il est au courant de tout, comme toujours, chaque fois qu'il arrive ici. On va voir les réactions de marché ensemble tout à l'heure. Vous êtes économiste et conseiller auprès d'Aurel BGC. Petit tour de table de votre état d'esprit au lendemain du premier tour, Léonidas.
Écoutez, c'est un moment politique absolument majeur. 68% des Français sont déplacés pour voter. C'est un moment de démocratie. On disait les Français dépolitisés. Je ne sais pas ce que ça serait si c'était pas le diagnostic dont on part. Il y a une demande de politique absolument considérable et néanmoins une crise globale du politique, une crise globale de l'offre politique pour répondre à des angoisses existentielles absolument terribles. On n'a globalement rien vu de crédible sur les problématiques de pouvoir d'achat qui sont d'ailleurs, je crois, mal exprimés. La question, c'est est-ce que le travail paye? Et sur cette question, aucune réponse maîtrisable, fiable, n'a été proposée par quiconque.
Le problème, Léonidas, c'est que si on veut que le travail paye davantage, il faut modifier fondamentalement le mode de financement du système de protection sociale.
Mais je suis totalement d'accord avec vous, et pardonnez-moi, mais devant 68% des Français qui vont voter, cette question, je la reprends exactement dans vos termes, il faut penser le système de financement de notre protection sociale. Il n'a été repensé, remis sur le métier, par absolument aucune offre politique.
La question des déficits... Généralement, c'est pas quelque chose de très agréable, réformer la protection sociale.
Oui, mais c'est peut-être...
Il n'y a pas que le financement qui a besoin d'être réformé, il y a aussi la facture globale.
Oui, mais quand est-ce qu'on pose les questions? À un moment de dissolution et où 68% des Français vont voter...
C'est 65,
J'avais retenu 68, mais... on ne pose pas... La question de nos déficits, est-ce qu'il y a le début de commencement d'une offre politique sur la réponse au déficit? La question d'une angoisse globalement existentielle du pays sur son identité, sa culture. Globalement, des angoisses politiques majeures, pas d'offres crédibles. Mon sentiment aujourd'hui, c'est que jamais les responsables économiques, les responsables d'entreprise, n'ont autant été au pied du mur d'assumer leurs responsabilités. Les entrepreneurs, c'est la partie nation agissante d'un pays. De l'autre côté, il y a l'État. À l'évidence, toute offre pour prendre en main l'appareil d'État semble dépassée par l'ampleur des défis que l'on a vu hier soir s'égrener les uns après les autres.
Vous avez parlé d'économie, moi je continue à penser que l'économie ne fait pas voter, encore moins pour cette élection.
Non, mais les entrepreneurs peuvent avoir peut-être des réponses.
Gaëlle, oui, moi, état d'esprit du matin.
C'est tout à fait ça, je pense que l'économie ne fait pas voter les électeurs. Et c'est de plus en plus vrai, et c'est vrai que les candidats, quand on repense à l'histoire, par exemple, François Mitterrand en 1981, il y avait un programme économique de gauche puissant, avec des nationalisations, des augmentations de salaires, plus de protection sociale, et les gens avaient voté pour ça en partie. En 2007, le travailler plus pour gagner plus de Nicolas Sarkozy, il avait marqué, et il y avait vraiment un sujet économique, les gens avaient voté pour ce sujet.
Je veux dire, là, François Hollande, c'était l'aspect financier. Qui avait pas mal mobilisé,
oui, voilà, l'hostilité à la finance. La finance sans visage. Bon. Et Emmanuel Macron aussi en 2017. C'était un peu cette idée d'une troisième voie, de l'émancipation également par le travail.
C'était le travail qui était bien là-bas.
Voilà. Donc il y avait également un projet économique fort. Là, depuis quand même un an ou deux, il y a une perte de repère complète économique. C'est-à-dire que, bon, Emmanuel Macron mène des réformes finalement de droite classique. La droite classique refuse les réformes, je veux dire, voilà, on voit quand même sur la réforme des retraites, sur la réforme, donc les comptes publics ne sont plus du tout un enjeu. Plus, enfin, les Français ont jamais eu énormément de culture économique. La dette n'a jamais été en haut des préoccupations des Français. Hein. Jamais, je veux dire, quand on fait des sondages, ça n'a jamais été en haut. Et finalement, ça, est-ce que ça paye d'être crédible en économie aujourd'hui, politiquement ? Ben non.
Ben non, non.
Ça ne paye pas.
Ça, on l'a bien vu. Hein.
Mais l'économie va se venger.
J'ai bien aimé la formule du candidat travailliste en Grande-Bretagne qui dit que dans un programme en matière économique, il faut promettre un espoir ordinaire. Sous-entendu, mais ça fait pas rêver un espoir ordinaire. Alors qu'un espoir extraordinaire, ça fait davantage rêver. Mais oui, c'est pas.
Alors que là, on est vraiment dans. On fait rêver. C'est-à-dire que il y a vraiment aucune mesure d'économie, il y a des mesures de dépenses, et on va faire payer ou les immigrés ou les riches. Voilà.
Ou les générations futures.
Les générations futures.
Christian,
voilà.
Votre lecture.
Oui, mais justement, moi, je pense que l'économie va se venger, parce que le gros problème que l'on va avoir, quoi qu'il arrive, c'est qu'on a aujourd'hui une France qui est très divisée. Très divisé sur deux extrêmes. Ce qui veut dire, pour les marchés, pour les gens qui prêtent, l'image d'une France où finalement on peut tomber très vite d'un extrême à l'autre et ça sera très difficile de faire des réformes en France. Alors, je ne vais pas vous faire le scénario du pire à l'anglaise avec une défiance majeure des marchés obligataires. Admettons, scénario qui peut faire réagir positivement les marchés aujourd'hui, l'idée que finalement il n'y a pas une majorité absolue, que ça soit extrême gauche ou extrême droite, et donc forcément on aura une coalition et que la coalition va faire qu'on va avoir des mesures économiques beaucoup plus diluées par rapport au programme qui pouvait faire peur au marché. Ok. Mais globalement, ce que je retiens aujourd'hui, c'est qu'il va être très difficile aujourd'hui pour la France d'adopter un vrai assainissement budgétaire. Alors vous allez me dire, est-ce que c'est grave ? Après tout jusqu'à maintenant, ça s'est bien passé. Sauf que, je vous dis juste, ça va se payer. Ça va se payer par quoi ? Ça va pas forcément se payer par une crise majeure sur la dette française, mais par un taux d'intérêt beaucoup plus élevé pour la France que pour les autres pays, si on avait eu, toutes choses égales par ailleurs, une politique budgétaire rigoureuse. Ça veut dire qu'on va emprunter plus cher sur les marchés. Alors, même si on n'est pas dans un scénario extrême, les marchés continuent de nous prêter, mais ils vont demander une prime pour nous prêter. Et cette prime, finalement, ça va encore plus contraindre le budget à venir de la France. Parce que ce qu'il faut pas se leurrer, c'est si... Alors, on parle toujours du spread, alors l'écart de taux entre l'Allemagne et la France. Je vous rappelle juste, en réaction ce matin, hein, c'est plutôt les taux allemands qui remontent, mais pas les taux français qui baissent. Hein. Alors, on verra, dans la journée, ça peut évoluer encore. Hein. Mais ça montre bien, c'est-à-dire que on avait une crainte très forte, on avait acheté l'Allemagne vraiment en valeur refuge. Donc c'est les taux allemands qui avaient baissé. C'est ça qui avait fait remonter la prime de risque sur la France. C'était pas. Mais là, ce qu'on constate, c'est qu'on est un petit peu rassuré sur la France. Donc on délaisse un peu les taux allemands, mais on fait pas baisser les taux français. Donc ça prouve que on veut prêter encore à la France, mais on exige encore des taux d'intérêt plus élevés qu'il y a encore quelques semaines. Et moi, grande crainte qu'on va avoir, et à mon avis, ça sera renforcé en septembre. Et je pense que ça sera le mois de septembre où on a le plus de risques sur le marché obligataire, parce que c'est là où on verra le budget budget 2025. C'est là où on verra peut-être les tensions avec l'Europe.
C'est là où globalement on aura le verdict pour savoir si la parole française est respectée.
Et donc admettons, sans vouloir jouer les oiseaux de mauvais augure, mais ça peut quand même arriver, mais qu'on n'ait pas de défiance des marchés, mais on aura une prime. Et cette prime, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la France va se réemprunter, va rouler sa dette et va emprunter avec des taux d'intérêt plus élevés. Ça veut dire que dans le budget 2025, 2026, 2027, ça sera une charge d'intérêt qui ne va pas cesser d'augmenter pour la France. Et donc, ça veut dire moins de flexibilité budgétaire, ça veut dire moins de social, moins d'investissement pour la transition énergétique, moins dans l'éducation. Et ça, c'est un vrai problème, parce que quand on regarde l'Italie, si on doit prendre un exemple sur l'Italie, aujourd'hui, l'Italie emprunte à des taux d'intérêt trop élevés. Alors l'Italie, vous allez me dire, ils ne sont pas dans une situation, ils ont un excédent, ils vont revenir en excédent primaire positif, mais l'Italie aujourd'hui, quand même, n'arrive pas à se désendetter parce qu'elle emprunte à des taux d'intérêt trop élevés par rapport à sa croissance et à son inflation.
Alors que contrairement à la France, elle a un excédent budgétaire primaire.
Elle va le redevenir cette année a priori, mais ça c'est un vrai problème. C'est un vrai problème de fond, parce qu'en France, on a 3,6 points de PIB de déficit avant la charge de la dette. Et après, je vous fais exploser la charge de la dette. Donc ça veut dire qu'on a un budget qui sera complètement contraint. Alors moi, ma principale
crainte aujourd'hui, on met 50 milliards de remboursement dans la dette cette année déjà.
Voilà, mais moi, ma principale
crainte, c'est le double comparé à 2021.
Et ça va rester. C'est quelque chose qui va rester. Que vous pensiez ce que vous voulez, quel que soit le gouvernement, aujourd'hui, on a un vrai risque. Et ça empêche toute flexibilité budgétaire.
Bon, la réaction de marché, ça y est, on vient d'y répondre là avec vous, Christian Parizeau.
Peut-être un petit mot, si vous permettez quand même.
Parce qu'on revient un peu sur l'actu.
Sur l'actu. Non, simplement parce que faut quand même prendre aussi sa part de responsabilité dans le résultat d'hier. On est ici, je pense, globalement, à avoir des débats sur nos nuances par rapport à une politique de l'offre à laquelle on adhère, parce que l'on pense que l'économie a besoin de stimulus et que c'est le principal moteur de la création de richesses. Il faut quand même reconnaître que depuis 7 ans qu'on a cette politique de l'offre, le bilan, c'est à peu près 65% de Français qui votent dans les extrêmes. Enfin, il faut qu'on se fasse un peu notre propre examen de conscience. Nous pensons globalement que une politique pro-entreprise est bonne pour notre pays. Nous devons nous poser la question de trouver les ajustements qui font que globalement le pays y adhère. Ce n'est aujourd'hui pas le cas. Ça nous concerne.
Je ne pense pas que le vote d'hier soit un rejet de la politique de l'offre.
Non,
je ne pense pas.
Nous pourrions être collectivement dans l'idée que quand une politique de l'offre fonctionne, elle donne satisfaction au pays et le pays y adhère. Nous devons constater, et ça nous interpelle chacun d'entre nous, que le pays n'y adhère pas. Et donc il y a des ajustements que nous devons nous forcer à apporter à nos propres convictions. Et je le dis pour moi-même en premier.
C'est l'information économique en France du jour. La décision a été annoncée tard hier soir. Le Premier ministre a suspendu la réforme de l'assurance chômage qui prévoyait de durcir les conditions d'accès et notamment de réduire aussi la durée d'indemnisation. Il y avait aussi cet aspect qui ne verra pas le jour, c'était l'idée d'avoir un bonus emploi senior pendant un an. Un senior, donc un plus de 57 ans qui retrouve un boulot mais avec un salaire moins bon qu'avant, eh bien l'État compensait pendant un an la différence de salaire. Ça aussi, ça fait partie des éléments qui ont été enterrés. Il fallait éviter un vide juridique, donc un décret de jointure a été publié ce matin au Journal officiel. Ce décret court jusqu'à la fin du mois de juillet et il permet donc d'assurer les affaires courantes, de pouvoir continuer à juridiquement et légalement indemniser les demandeurs d'emploi. Est-ce qu'il a raison, le gouvernement, selon vous, Gaël Mac, d'avoir enterré cette réforme de l'assurance chômage ?
En tout cas, c'est vrai que l'idée de faire passer cette réforme vraiment à la veille, disons le 30 juin, à la veille du premier tour, alors qu'il est clair que les deux formations politiques qui sont ressorties en tête de ces législatives, c'est-à-dire le Rassemblement National et le Nouveau Front Populaire, étaient toutes les deux opposées à cette réforme. Et l'avait dit assez clairement et voulait revenir dessus.
Sur toutes les réformes, d'ailleurs, du côté du NFP.
C'était un petit peu... C'était pas une très bonne manière, on va dire. Et bon, en dehors du fait que manifestement, en pratique, c'était assez compliqué d'arriver à faire les choses dans les temps. Bon, et Bon, après, est-ce qu'il y a un petit côté tactique aussi de politicienne dans cette affaire et l'idée de faire un petit geste, disons, notamment en direction du nouveau Front populaire, puisque on sait quand même que là, dans la conjoncture politique, on a 250 triangulaires et qu'il va falloir faire un peu des accords dans tous les sens. Et que, bon, je crois comprendre que Renaissance ne veut absolument pas les faire avec le Rassemblement national, mais que, bon, avec certains des candidats de Nouveau Front Populaire, c'est possible. Donc, il y a eu peut-être aussi un peu de manœuvre politique là-dedans.
Possible, effectivement. Une réaction sur l'assurance chômage ou...
Non, mais bon, que l'on veuille se dire, on va essayer de faire de la politique un peu autrement, parce que jusqu'à présent, ça n'a pas bien marché. Peut-être qu'il peut y avoir aussi plus de concertation. Maintenant, on a un moment électoral qui est quand même très, très clairement un moment où il vaut mieux mettre les urticants de côté. Cela dit, l'inspiration de cette réforme était une inspiration à laquelle on peut adhérer.
Oui, bah, l'idée c'était de faire des économies, bien voilà, sûr, mais il y avait aussi l'idée quand même d'augmenter le taux d'emploi. On retrouvait la notion du travail et des...
Il y avait une cohérence par rapport à l'idée de mettre le travail en avant.
Non, mais on peut dire que surtout, c'était une des dernières mesures après la réforme des retraites qui prétendait faire des économies et que là, les économies, c'est plus l'heure.
Non, c'est plus l'heure.
Oui, mais justement, c'est ça que je voulais dire. C'est un peu le problème qu'on risque d'avoir, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que ça va être très difficile de faire de nouvelles réformes aujourd'hui.
Ah, Exactement, c'est fini.
Alors ça pose quand même un problème parce que j'entends bien, il y a certains notamment de mes clients qui disent bah finalement on va se retrouver comme en Belgique et finalement la situation de la Belgique n'était pas si mauvaise que ça.
C'est ceux qui disent la Belgique arrive à passer 300 jours sans gouvernement et ça n'a jamais aussi bien marché.
Alors moi je suis d'accord sur l'exemple belge, mais c'est pas forcément reconductible en France. Pourquoi? Parce que il y a un point que faut pas oublier, c'est qu'on a un déficit public qu'il va falloir résoudre et qu'on a 3,6 points de PIB de déficit primaire. Et si on fait rien, on a une dérive naturelle des comptes publics. Ça veut dire que ne rien faire aujourd'hui, c'est aggraver les choses. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut bien avoir en tête. C'est-à-dire que non seulement on va rentrer dans une période où ça va être très difficile de faire des réformes structurelles et de trouver des économies. Alors après, encore une fois, je ne mets pas de couleur politique, quel que soit le choix, mais il va falloir à un moment donné passer des mesures qui seront impopulaires. Et si vous n'avez pas de majorité au niveau de l'Assemblée, ça va être très compliqué de passer, surtout si en plus on a deux visions de l'économie qui sont totalement extrêmes et totalement opposées. Et derrière, ne rien faire n'est pas une solution. Et c'est là, attention à cet élément-là.
Le scénario belge n'est pas
pour moi une solution parce qu'on ne respectera pas alors nos objectifs de long terme de réduction des déficits et on va avoir un creusement mécanique du déficit primaire français. Oui. Et donc, encore une fois, la situation va empirer.
Je précise que tous les retours d'expérience des précédentes réformes d'assurance chômage qui ont pu être menées dans différents pays, c'est toujours avec les mêmes paramètres qu'elles ont été menées. Et on sait que lorsque l'on durcit les règles, on améliore le retour à l'emploi et le taux d'emploi. Voilà. Les comportements s'adaptent, les individus sont sensibles à l'effet d'horizon. Et si vous abaissez la durée d'indemnisation, il y a une accélération du retour vers l'emploi. Et si vous durcissez les conditions d'éligibilité au système d'assurance chômage, les contrats également s'adaptent à la nouvelle donne. On l'avait déjà observé quand on était passé de 4 mois exigés à 6 mois pour pouvoir être éligible à l'assurance chômage. Donc dans les aspects purement techniques et les résultats qu'on pouvait obtenir, il y avait des résultats positifs.
Oui.
Je voulais juste dire que par rapport au programme économique, il y a une certaine continuité en fait, sur un plan strictement économique entre le Rassemblement National et Nouveau Front Populaire, sont quand même deux partis anti-libéraux, plutôt protectionnistes, plutôt étatistes, qui veulent des dépenses sociales, qui veulent revenir à la retraite à 60 ans, qui veulent augmenter les salaires, qui ne disent rien sur la réduction du nombre de fonctionnaires, qui n'ont pas d'objectif de réforme de l'État, en gros, du périmètre de l'État. Au contraire, ils veulent plutôt des nationalisations, finalement. Donc, en fait, leurs programmes économiques se ressemblent un peu. Donc évidemment, le Rassemblement national est toujours un peu... Il y a toujours cette tension entre une droite libérale, plus même ultralibérale, qui était défendue par Jean-Marie Le Pen en son temps, et que sa fille Marine a complètement est revenue en arrière et a changé. Et de nouveau, Jordan Bardella, on sent qu'il est peut-être plus libéral, et puis il cherche à se concilier le patronat. Mais en même temps, leur programme est donc, en gros... Soit c'est l'immobilisme, ce qui, comme vous dites, est le pire. Enfin, je veux dire, ne rien faire, c'est aggraver la situation. Voilà. Et ou alors, passer les mesures, les réformes, entre guillemets, qui sont proposées par ces deux formations, bah, ne font qu'aggraver le déficit.
Oui, pardonnez-moi, Gaël, parce que
Léonidas, on a deux minutes, on marque une pause.
Sur ce sujet, il y a une part de manque de pédagogie, parce que ce que Nicolas vient d'expliquer sur la logique de remettre un horizon plus exigeant pour qu'on retourne au travail, globalement, on pourrait amener toute la société française vers une aspiration au travail, et elle pourrait être partagée, et donc nous n'aurions pas ces deux extrêmes qui contestent globalement la totalité d'une réforme comme celle-là. Et vous avez raison de rappeler que les deux extrêmes sur ces sujets se rejoignent. En revanche, qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à entraîner vers cet enthousiasme collectif vers le travail? Le chômage recule, on devrait avoir cet engouement. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe que lorsque les gens passent d'un revenu d'assistance ou d'allocation vers le revenu du travail, la différence est tellement faible qu'il y a une contestation très profonde.
Ça a justement été en partie, on a eu un début de correction de ce que vous décrivez avec les précédentes réformes de l'assurance chômage.
Oui, mais, enfin, vous le savez comme moi, elles sont marginales globalement sur le fait de d'estomper un peu un différentiel qui n'est pas suffisant. Mais le fait de franchir un pas dans sa vie en commençant à travailler et que ça marque véritablement une lancée totalement, radicalement différente, ça c'est quelque chose qui n'est pas perçu. C'est d'ailleurs globalement ce qui est mis en avant dans le fait de mettre le pouvoir d'achat comme principale motivation dans les votes.
Il faut quand même regarder que le Rassemblement National, là où il a gagné des points en ce moment, ça n'a pas du tout été sur ce type de population, c'est-à-dire sur les classes populaires qui sont entre chômage, précarité, etc., où il était déjà largement en avance. C'est vraiment sur les retraités, donc qui ne sont pas concernés par ce sujet, ou sur les cadres supérieurs, hein, je veux dire les catégories sociologiques dans lesquelles le Rassemblement National a gagné des points dernièrement, c'est pas sur les gens qui sont en ce type de situation, donc vraiment le phénomène est bien plus large.
On marque une pause, je vous retrouve dans un instant. On va quand même dire un mot, Christian Parizeau, de la réaction du CAC 40 depuis l'ouverture, parce que c'est quand même frappant de voir qu'on flirte avec les 2% de hausse pour l'indice parisien. Ça vaut la peine de s'y arrêter deux secondes. Comme vous nous le disiez, de toute façon, il n'y avait pas d'inquiétude à avoir là tout de suite dans l'immédiat, et j'ai bien compris que c'est au moment du budget à l'automne que vous vous dites que là ça pourrait se tendre un peu, si on se rend compte que on est prêt à renier l'ensemble de notre parole et de nos engagements, notamment au niveau européen, et c'est bien sûr sur la question budgétaire que ce sera le plus évident. On marque une pause, on se retrouve dans un instant.
Nicolas Dose et les experts sur BFM Business. Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Avec Gaëlle Mac, directrice déléguée de la rédaction de Challenge, à la une du numéro de cette semaine, la folle facture au regard des programmes du RN et du nouveau Front Populaire. Léonidas Kalogiropoulos, PDG de Médiation et Arguments, délégué général de l'Open Internet Project et fondateur des Entrepreneurs pour la République. Et Christian Parizeau, économiste, conseiller auprès d'Aurel BGC. J'ai cet auditeur qui me dit, où est-ce qu'il est, Joris. Il me dit, voilà, vous ne dites jamais que l'assurance chômage est à l'équilibre. Alors, en ce moment, elle est effectivement à l'équilibre, parce que le chômage a reculé. Il y a quand même plus de 55 milliards de dettes dans les caisses, bien structurelles dans les caisses de l'UNEDIC.
Enfin, du dette qui recule, parce que...
Oui, elle était à 65, et on est tombé un peu au-delà de 55. Comment se fait-il que la Bourse de Paris est si bien, Christian?
Non, alors après, il faut reconnaître qu'on évince un scénario extrême qui aurait été une victoire assez large du nouveau Front Populaire. L'extrême gauche fait plus peur au marché que l'extrême droite, vu le programme et vu les risques de taxation que ça pouvait engendrer. Donc il y a un aspect déjà purement, on évite un des scénarios. Après, dans le scénario central aujourd'hui, c'est plutôt un scénario de cohabitation. Alors, est-ce que ça sera RN plus une partie de la droite ou est-ce que ça sera une coalition assez large qui irait de la droite au PS? Enfin, on ne sait pas trop, mais en tout cas, on a le sentiment, et c'est pour ça que j'ai tant insisté tout à l'heure sur le fait, attention, l'absence de réforme en France n'est pas une bonne nouvelle, parce que le marché, je pense, a tendance à se dire, bon, finalement, même si c'est une victoire du RN, ils n'auront pas forcément la majorité absolue. En tout cas, il y a une très faible probabilité qu'ils aillent aujourd'hui la majorité absolue. Et dans ces conditions-là, ils seront forcément obligés de faire au moins une coalition, ou alors ça sera une coalition plus large qui sera au pouvoir. Et donc, on aura forcément une application d'un programme économique plutôt édulcoré qui ne va pas forcément tout chambouler aux yeux des marchés. Donc, c'est plutôt cette réaction de soulagement qu'on peut avoir sur les marchés. C'est pour ça que je pense que, d'une part, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, c'est les marchés obligataires qui vont donner la tendance sur les marchés. Parce qu'aujourd'hui, il y a un problème qui a été soulevé avec la France et c'est pas fini. Parce que je pourrais faire une petite parenthèse sur ce qui s'est passé aux États-Unis vendredi. C'était aussi très intéressant, la réaction du marché obligataire américain. Mais aujourd'hui, le marché obligataire va donner la tendance. Parce qu'aujourd'hui, on a la perception qu'il y a quand même un risque sur les finances publiques mondiales. Et la BRI l'a rappelé hier. Donc, il y a un risque.
La Banque des règlements internationaux.
Voilà. Il y a un risque sur les dettes des États. Et il va falloir que tous les gouvernements, quels qu'ils soient, soient crédibles. Et l'autre part, ce que je vous disais, c'est que la France, c'est pas fini. Et, même si on a une coalition, entre guillemets, on va juger mesure par mesure. Et c'est pour ça que moi, je pense que la vraie volatilité sur les marchés obligataires, elle va être plutôt en septembre, quand on commencera à boucler le budget, qu'on verra les vrais, ce qui est mis en place. Alors, c'est vrai que si on a une coalition et qu'on abolit pas la réforme des retraites où on l'a fait de manière marginale, ça va rassurer les marchés parce que c'est une des mesures les plus coûteuses. Donc on se dira, on a évité ça. On verra ce qui sera fait in fine sur les baisses de fiscalité, notamment sur la TVA, sur les carburants. Donc il y a beaucoup d'incertitudes. Donc le marché n'anticipe pas pour l'instant et se dit que finalement, s'il y avait une large victoire du RN, on pouvait dire ils vont appliquer leur budget, leur plan comme ça. Là, ils vont devoir l'édulcorer. Donc on se dit qu'on évite le pire. Mais attention quand même, attention encore une fois, il y a un vrai problème aujourd'hui des finances publiques au niveau. Juste un petit mot sur les États-Unis.
Allez-y. Oui.
C'était intéressant vendredi parce que vous savez que M. Biden a complètement raté son débat avec M. Trump.
C'est chaud.
À tel point que les démocrates
cherchent un plan B.
Voilà, cherchent un plan B. Mais il y a eu pas mal de notes de mes confrères américains qui ont commencé à dire on va regarder le programme de M. Trump. Et ils ont commencé à dire attention, le programme de M. Trump est très inflationniste. Et on avait eu une réaction très positive du marché obligataire à un indicateur. On était tombé sur des taux américains qui étaient tombés à 4,26. Et sur ces stratégistes américains qui ont mis en alerte en disant attention, la Banque Centrale Américaine va beaucoup moins baisser ses taux, elle va être prudente, le programme de M. Trump est très inflationniste, ça pourrait relancer aussi le coût de la dette, il y a un problème budgétaire aux États-Unis. Pas mal de warnings autour de ça, ça a fait remonter les taux américains de 4,26 à 4,40. Alors vous allez me dire, c'est pas grand-chose, mais c'est quand même significatif. Et ça a complètement inversé la tendance. Alors c'est un épiphénomène, c'est sur une séance, je vous dis pas que c'est la fin du monde. Mais ça montre que quand même, il n'y a pas qu'en France qu'on s'interroge sur les déficits publics, il n'y a pas qu'en France qu'on s'interroge sur les politiques économiques. Et quand on fait des politiques économiques qui peuvent véritablement traduire des instabilités économiques à venir, on voit que les marchés réagissent très violemment. Et encore une fois, les taux américains, s'ils commencent à prendre encore 20 BP, 30 BP, 30 centimes, 0,30% sur les prochaines semaines, je peux vous dire que la bourse américaine va commencer à réagir. Donc il n'y a pas qu'en France qu'on a cette problématique-là. Et retenez que c'est les marchés obligataires qui vont faire la tendance cet été et la crédibilité qu'auront les hommes politiques dans leur politique économique autour de ça.
C'est vrai que la BRI, vous le rappeliez, dans son rapport économique annuel publié hier, elle met en avant un risque de perte de confiance des marchés obligataires. Elle ne parle pas de la France, précisément, elle parle des marchés obligataires.
Oui, parce que le problème en Allemagne pourrait être aussi... On voit avec la montée des extrêmes en Allemagne aussi. Enfin, on voit que ce n'est pas qu'un problème purement français.
Oui, moi,
réaction, Gaël Mac, allez-y.
Pour cette histoire des marchés financiers, je trouve que par rapport aux électeurs qui votent souvent par émotion et également sur des valeurs et imparfaitement pour leurs intérêts. Par contre, les marchés financiers, eux, ils votent complètement pour leurs intérêts. Et donc, je pense que ces derniers temps, on a un peu joué à se faire peur avec cette histoire du programme du Nouveau Front Populaire, puisque dans les sondages, le Nouveau Front Populaire n'a jamais été en situation de former un gouvernement. Enfin, je veux dire, il n'y a pas particulièrement de surprise des résultats du Nouveau Front Populaire par rapport à ce qui était prévu. Jamais mais ils ont été véritablement placés. On n'a jamais pensé réellement qu'ils allaient pouvoir être en mesure de prendre le pouvoir, mais pour autant, on les a toujours, et ça c'était un peu aussi l'effet recherché par le gouvernement, mis dos à dos, mis leur programme dos à dos, comme si chacun d'eux était en mesure de prendre le pouvoir demain, alors que bon, clairement, celui qui est en mesure de prendre le pouvoir, c'est le Rassemblement National. Or, le Rassemblement National a été assez rassurant, je pense, dans sa campagne pour les investisseurs et les patrons, etc. Beaucoup de gens dans le business font référence à Giorgia Meloni et à l'Italie en disant finalement, l'économie italienne va bien, le patronat italien est ravi, donc il peut y avoir une personne d'extrême droite, entre guillemets, qui est élue sans que ce soit le cataclysme économique. De leur côté, le Rassemblement National n'a cessé de donner des gages depuis semaine. Oui, oui. Il y a une mesure qui est mise à l'encan chaque jour.
C'était impressionnant quand il a fait son grand oral là, avec d'autres, hein, devant le patronat à la
MEDEF. Puis il prépare les esprits en disant on va faire un grand audit financier. Alors je le conseille de lire des rapports de la Cour des comptes ou du Haut Conseil des Finances publiques. Hein, l'audit, il existe déjà. Les chiffres ne sont pas cachés. Mais bon, en tout cas, c'était plutôt à destination de son électorat pour dire attention, on va découvrir que finalement les finances de la France sont au plus mal et que donc
c'est vrai qu'il y a
devant
un côté...
l'urgence on va être obligé de reculer.
Quand il était devant le MEDEF, justement, c'était à la salle Gaveau, je crois. Oui. Vous y étiez, Éthique était là. Vous avez connu Éthique par le passé, mais vous connaissez bien les sphères patronales. Il est arrivé, je me souviens, avec 6 points. Jordan Bardella, c'était super carré, c'était super pro-business. Probablement pour dire aux gens ce qu'ils avaient envie d'entendre. Alors après, vous avez vu toutes les postures patronales anti-extrêmes, évidemment. Mais off, ils admettaient tous que c'était le nouveau Front Populaire qui leur faisait vraiment peur, beaucoup, beaucoup plus sur le terrain
parce
économique.
Parce qu'eux regardent bien leurs intérêts.
Mais comme par ailleurs, le Rassemblement National, je pense, incarne une volonté d'ordre, et après, les propositions économiques viennent quasiment en plus, et la volonté qu'ils ont affichée de rassurer fait que tout ce qui peut inquiéter de près ou de loin, tout ce qui peut bouleverser la bourse ou les grands équilibres a été effectivement, comme vous le dites, mis à l'encan. D'ailleurs, c'est finalement aussi la preuve que ce n'est pas sur les propositions économiques qu'il a réussi à être le premier parti de France. D'ailleurs, cette question de l'ordre est aussi une question pour laquelle il serait bon que les partis de gouvernement entendent cette volonté. C'est aussi une volonté des chefs d'entreprise et du monde économique qu'il n'y ait pas une sorte de climat d'insurrection tous les matins dans notre pays. Les milieux économiques sont aussi attentifs à cette exigence-là.
Est-ce que vous achetez, puis après on dira un mot de l'inflation, la théorie selon laquelle, devant les enjeux budgétaires des 4 prochaines années, Emmanuel Macron a voulu éviter l'obstacle en se disant c'est ingérable, c'est infaisable, on l'a jamais fait dans l'histoire, 100 milliards à trouver en 4 ans. Allez, je le rends la patate chaude à quelqu'un d'autre.
Mais il est clair que
Et qu'en fait, ce serait peut-être l'un des éléments explicatifs du choix de dissoudre l'Assemblée nationale.
Je ne sais pas si ce choix-là et cette question-là a pesé davantage que les autres, mais c'était le début de notre matinale, on est devant un ensemble de défis face auxquels les réponses politiques ont du mal à calibrer des remèdes efficaces. Les tenants de la majorité précédente comme ceux qui y ont postulé, mais l'ampleur des défis, elle est sur les déficits, ça rend tous les autres défis compliqués à gérer.
100 milliards en 4 ans.
Oui, 5 milliards en 4 ans. Enfin, mais le fait est qu'on s'est mis un ensemble d'interdits également. Il y a des propositions qui ont été faites sur de la TVA sociale. On n'y réfléchit pas. Enfin, on est sur une équation qui est extrêmement exigeante, mais dont on a restreint tous les paramètres en se mettant énormément d'interdits. Mais c'est le cas pour cette majorité comme pour tous ceux qui ont candidaté hier.
Parce que la certitude de beaucoup quand ils voient ce genre de chiffres, donc c'est un chiffre qui vient de l'Institut Bruegel, qui a été calculé, et puis qui est également repris par Ludovic Subran, chef économiste d'Allianz, que vous connaissez bien, qui vient souvent ici. On se dit comment on peut boucler une équation aussi impossible en évitant les hausses d'impôts. Enfin, franchement, il y a un moment...
Cas, je ne sais pas, je pense que ça serait s'avancer de dire qu'il avait vraiment fait vraiment un refus d'obstacle. En tout cas, il y avait certainement une manœuvre politique quand même, qui était, puisque bon, on est dans un temps qui est un peu 2 ans et demi avant la présidentielle, et donc quand même, il faut voir qu'une large partie des électeurs ont toujours comme motto... Le Rassemblement National, c'est le seul qu'on n'a pas essayé.
Oui, ça,
donc,
on a bien entendu,
essayons. Je veux dire, finalement, c'est les seuls dont on n'a pas prouvé qu'ils étaient inefficaces, etc. Donc, finalement, leur donner le pouvoir, là, pour 2 ans, dans une situation extrêmement économique, extrêmement contrainte, est-ce que c'est une manœuvre pour les mettre à l'épreuve du feu ?
Ils n'arriveraient plus avec des promesses, mais un bilan, voilà. Et là, c'est plus compliqué.
Et voilà, et cela donc dit, pour 2027, arriver déjà avec un bilan...
Mais je voudrais revenir à notre bilan. Le projet du gouvernement, c'était de dire, on va aller vers le plein emploi. Le plein emploi va faire rentrer des cotisations, et grâce aux cotisations, on va rembourser nos dettes. Ce modèle-là, on l'achetait collectivement, en tous les cas, dans le monde économique. Nous devons quand même reconnaître qu'on n'y est pas. Enfin, moi, je l'admets totalement. Oui. Ce modèle-là me convient, et sauf que les résultats ne sont, à l'évidence, pas suffisamment satisfaisants, que l'engouement pour reprendre le travail n'est pas suffisant, la quantité de travail dans notre pays n'est pas suffisante, et on dirait que tous les leviers que le gouvernement a essayé d'actionner pour amplifier ce mouvement, eh bien, n'ont pas donné les résultats attendus. C'est aussi, d'ores et déjà, le bilan d'une politique qui a été menée. Elle ne peut pas continuer à être menée avec une nouvelle coalition sans tirer un tout petit peu les leçons du fait que le compte n'y est pas. Enfin, je pense que...
Oui, bien sûr.
Moi, je pense qu'on a sous-estimé les aspects sociaux. Très clairement. Ce qu'on a sous-estimé, je pense, et ça, on le voit à travers les données d'enquête auprès des ménages, c'est que les Français ont été autant affectés par l'inflation que les Allemands, par exemple, ou que d'autres pays européens, alors que l'impact a été beaucoup plus lissé en France, notamment à cause de l'indexation du SMIC, et notamment les bas salaires ont, entre guillemets, je ne veux pas dire qu'ils n'ont pas souffert, mais ont beaucoup moins souffert que par rapport à d'autres pays de la zone euro. Et pourtant, quand on voit les enquêtes, les données d'enquête, ça s'est autant dégradé en France que dans d'autres pays. Donc ça montre qu'il y a eu une perception des Français, et ça, je pense qu'on peut mettre à ça du gouvernement. Je pense que le gouvernement a mal géré. Alors peut-être en termes de com, parce que c'est plus un problème de com, puisque dans la réalité, la France a plutôt mis en place des éléments qui ont plutôt atténué le choc inflationniste, mais en tout cas, ils n'ont pas su communiquer là-dessus, et ça, c'est un réel problème. Et puis, deuxième chose qu'on sous-estime aussi, c'est que là, on est sur une amélioration. Bah, on devait parler justement de l'inflation.
Ah oui,
on voit que l'inflation revient à 2-1. Enfin, le choc inflationniste est en grande partie passé. Il y aura toujours un peu de volatilité sur l'inflation, mais on reviendra plus dans ce qu'on a connu. Et donc, c'est clair que le choc sur le pouvoir d'achat est passé, parce que maintenant, on va avoir des salaires qui vont progresser cette année en moyenne, et ça va redonner du pouvoir d'achat aux Français. Mais par contre, ce qu'on s'aperçoit et ce qu'on constate quand on creuse un peu les données de l'INSEE, c'est qu'il y a vraiment encore des perdants aujourd'hui de l'inflation et du pouvoir d'achat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que vous regardez, c'est pas les gens qui sont SMIC, qui sont les perdants, ce sont les travailleurs indépendants. C'est les petits commerçants, c'est les professions intermédiaires qui, alors en gros, vous avez une amélioration du pouvoir d'achat sur les hauts salaires, les cadres, une amélioration du pouvoir d'achat qui va y avoir sur les salaires au salaire minimum, et puis vous avez une dégradation de la situation de la classe moyenne, pour faire simple, pour faire gros, et essentiellement surtout sur les non salariés, les professions libérales intermédiaires qui souffrent encore énormément et qui n'ont pas d'effet de rattrapage. Et je pense que ça, on l'a sous-estimé énormément, parce que nos statistiques moyennes montrent que le pouvoir d'achat des Français s'améliore, mais avec une grande dispersion. Et donc, je pense qu'il y a aujourd'hui encore cette thématique de l'inflation, cette thématique du pouvoir d'achat qui reste centrale, mais pour une partie de la population. Et je pense que le RN était très fort sur la population qui avait les plus bas revenus, et il est monté sur la classe intermédiaire, et c'est ça qui fait sa victoire. Mais parce que justement, cette classe intermédiaire, elle souffre encore sur son pouvoir d'achat, alors qu'en moyenne, on n'est plus du tout dans ce schéma-là. Donc ça aussi, ça nous interpelle.
Mais vous avez
toujours
raison,
attention aux dispersions. Toujours attention, la moyenne ne nous dit pas tout. L'enseignement qu'on a, c'est un effet dispersion,
d'autant
qui joue énormément.
Raison qu'il y a une forme de tendance à dire on a pourtant fait le job et les Français ne sont pas reconnaissants. Je pense que la frustration qu'ils expriment est une frustration qu'il faut entendre et aller détecter où effectivement les choses ont dérapé. C'est absolument essentiel. Si on continue de dire on a tout fait parfaitement et c'est juste les Français qui ne sont pas reconnaissants ou qui ne regardent pas à quel point on est bon. Je pense que l'on est vraiment à côté d'abord d'une règle démocratie minimale. Il faut quand même écouter le pays avant de prendre soi-même des décisions. Et ensuite, on va pas apporter les correctifs nécessaires. Il faut que les partis de gouvernement soient capable d'apporter des correctifs à ce qu'ils font pour que ces contestations des deux extrêmes puissent revenir dans leur lit. Enfin, c'est une nécessité, mais je pense que ça nous interpelle, nous, qui étions plutôt favorables à la politique qui était menée, autant que les gouvernants.
Mais c'était l'idée des baisses d'impôts sur les fameuses classes moyennes, ce que vous décrivez. Mais, et puis, c'était aussi l'idée un peu du discours de politique générale de Gabriel Attal. Non, il arrive avec cette esmicardisation.
Bon. Oui, mais enfin, la question du différentiel entre le salaire brut et le salaire net reste un élément essentiel. Oui, mais si on ne le traite pas, enfin on le sait, je sais, il faut qu'on le traite. Voilà.
Donc, mais moi, je pense aussi que globalement, la montée des extrêmes dans pas mal de pays s'explique aussi pour des raisons en partie économiques, si je dois donner mon explication d'économiste, parce qu'on a une croissance qui est post-Covid, qui a été en cas, avec des secteurs qui s'en tirent très très bien et d'autres secteurs qui souffrent énormément et qui ne sont pas repris. Et donc, du coup, on a véritablement des perdants et des gagnants, même au niveau business. Et ça, c'est important de le dire aussi. C'est-à-dire que ça joue dans la perception des gens. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une activité dans laquelle vous n'avez pas la capacité de remonter les prix, dans laquelle les salaires sont sous pression, alors si vous avez un SMIC, et bah, du coup, vous étiez légèrement payé autour du SMIC, mais comme l'activité n'est pas bonne, votre patron ne vous en demande pas et ne répercute pas les hausses de SMIC, et donc vous vous retrouvez au SMIC, et bah, ça, c'est parce que vous êtes dans une activité qui est pénible et qui ne s'est pas redressée. Et donc, ce qu'on n'a pas assez pris en compte, et ça, c'est un mea culpa pour les économistes, c'est que derrière les chiffres d'amélioration économique, on a eu des vraies divergences économiques entre les secteurs, entre les activités, et ça crée véritablement aussi des tensions sociales qu'on voit aujourd'hui. Et ça, c'est un vrai problème, parce que la France n'est pas un pays dans lequel on redistribue pas. Il faut quand même le rappeler. Tout le monde est d'accord là-dessus, objectivement, hein, quels que soient les...
Bien sûr.
Et pourtant, on a l'impression que les Français nous envoient le message en disant « Ben non, la situation a empiré, on a eu des écartements de richesses énormes. » Mais je pense que ça tient aussi en partie à l'économie et à cette reprise qui est très atypique et très inégalitaire.
L'immense mérite de Christian Parizeau, c'est d'être un économiste qui est prêt à faire des mea culpa. Ils sont vraiment rares pour le souligner.
Gaël, vous voulez réagir?
Oui, moi, paradoxalement, je serais moins sévère, à vrai dire, envers la politique pro-business et ses effets, parce que je pense quand même qu'il y a eu, comme souvent, ce qui se passe en politique, il y a la politique d'Emmanuel Macron qui avait quand même fonctionné entre 2017 et 2021, c'est-à-dire qu'effectivement, on avait baissé le chômage et les finances publiques commençaient à tirer profit d'une croissance qui était un tout petit peu meilleure, un peu plus ravigoureuse, etc. Bon, depuis, il y a eu quand même le Covid et la guerre en Ukraine et cette inflation qui est devenue très forte. Ça n'a pas été qu'en France, hein, je veux dire, c'est assez difficile à contrer quand même pour un gouvernement. Je veux dire, il n'y a pas de mesures immédiates qu'on puisse prendre fortes et pas chères, je veux dire, puisque c'est quand même aussi notre problème, qui puisse contrer cette question. Or, quand on regarde, par exemple, la progression du Rassemblement National, c'est-à-dire en nombre de voix, il faut quand même voir qu'on était à 3 millions de voix en 2022, on était à 7 millions aux européennes et on est à 10 millions maintenant. Ouais. C'est-à-dire que ça a été quand même très très rapide. Et vraiment, sur cette fin sur cette dernière année, je pense que cette explication sur l'inflation, en plus de d'autres facteurs beaucoup plus politiciens et beaucoup plus émotionnels probablement, mais je veux dire, a complètement planté, si je puis dire, le bilan de Macron. Je veux dire, le bilan d'Emmanuel Macron a été planté par cette poussée d'inflation depuis deux ans. Plus peut-être un mauvais calibrage des aides Covid qui ont quand même aussi tombé la dette.
Peut-être aussi, me semble-t-il, le fait qu'en contrepartie de quantité de cotisations, on a un certain nombre de prestations qui sont gratuites dans notre pays. Et cette gratuité, le modèle de la gratuité comme contrepartie aux cotisations, au bout d'un moment, les Français voient ce qui est gratuit comme étant gratuit, comme une donnée en soi. et ne voient pas le fait que c'est la contrepartie des cotisations qu'ils versent. Et donc, c'est quelque part, il y a on s'est habitué à ce que les choses soient gratuites, et je pense que ça délite un peu le consensus que nous pouvions avoir sur un modèle social. Il me semble que nous devons nous poser ces questions-là, parce que sinon, on n'arrivera pas à, j'allais dire, rattraper l'écart entre ce que les partis de gouvernement proposent et ce que les extrêmes expriment comme frustration dans notre pays.
Rapport qui a été remis au maire de Londres sur le Brexit, la facture du Brexit, c'est très impressionnant. Le rapport a été commandé il y a quelques mois, il a donc été remis au maire de Londres. La facture depuis 8 ans est estimée à 170 milliards d'euros, 2 millions d'emplois perdus à tous les niveaux de qualification et une croissance du PIB 4 fois moins dynamique en Grande-Bretagne que dans le reste de l'Union européenne. Waouh ! Et ça vous a intéressé ce sujet, Gaëlle ?
Oui, parce que je trouve que c'est un bon exemple de la différence entre la froide réalité des statistiques économiques et la perception que peuvent en avoir les citoyens sur le terrain. Aujourd'hui, quand on regarde, quand on fait des sondages au Royaume-Uni, il y a une petite majorité qui dit que finalement, qui serait contre le Brexit.
C'est vrai, on est même pas à 55%.
Voilà, bon, alors, il y a certes une propension, je pense, importante de gens qui répugnent à faire un mea culpa en général dans la vie, ça c'est possible, mais je veux dire, il n'y a pas non plus la perception sur place que c'est cataclysmique, que ça a été catastrophique. Bon, quand on lit, par exemple, ce qui s'est passé à la City de Londres, dans les faits, sur 8-10 ans, elle a perdu 1 million d'emplois, elle a perdu environ 10%, si j'ai bien compris, de l'ensemble des actifs, etc. Mais ça n'a pas non plus... Elle reste la troisième place financière au monde, devant...
Repassée devant Paris, il y a une dizaine de jours.
Devant l'Europe, exactement, et devant Paris.
Sur un indicateur.
Mais donc, ce n'est pas non plus... C'est pas quelque chose de perceptible à l'œil nu. On ne voit pas les immeubles entiers se vider, le quartier devenir un désert, etc. Et donc, dans l'esprit des gens... C'est un poison lent et je pense que c'est exactement ce qui peut se passer en France quand des mauvaises décisions politiques sont prises ou que des partis qui n'ont pas une grande crédibilité économique ou qui ne mènent pas une politique économique très intéressante et très pertinente sont au pouvoir, c'est-à-dire que il ne se passe pas de catastrophe. Voilà, il ne se passe pas de catastrophe, il se passe juste que la situation empire petit à petit, voilà.
C'est une dégradation progressive.
Mais largement sous-jacente.
Il faut dire aussi que toutes les mesures post-Covid ont quand même atténué en grande partie le choc pour le Royaume-Uni, parce que ça arrivé à un moment où on a eu quand même pas mal de mesures du soutien public. Mais regardez aujourd'hui, les finances publiques, elles sont sous la surveillance des marchés obligataires. Et vous voyez bien que même s'il y a une alternance, c'est ce qui était cité au tout début, hein, même en cas d'alternance politique, maintenant, les Anglais ont compris qu'au moindre mot de travers, le marché obligataire anglais allait surréagir. Et cette surveillance obligataire limite énormément l'action politique derrière. Et ma crainte, c'est ça qu'on va avoir. C'est-à-dire que derrière, c'est qu'on va avoir, dans beaucoup de pays, une surveillance des marchés obligataires. Alors, vous en pensez ce que vous voulez, mais quand aujourd'hui, pour payer vos fonctionnaires, vous êtes obligé d'aller emprunter de l'argent, eh ben, vous n'êtes pas le choix. Vous êtes obligé de répondre aux exigences de ceux qui vous prêtent. Et le vrai problème, c'est que là, vous avez un vrai problème, c'est que les marchés, en effet, vont décider à la place des politiques et vous avez une perte de pouvoir de l'électeur, puisque quel que soit le politique à terme, ça sera les marchés qui décideront de ce qu'il faut faire. Donc
l'économie se vengera,
à mon avis. Et je dirais juste un petit mot, à titre perso, je regarde beaucoup les taux anglais et je m'aperçois qu'ils sont restés énormément plus volatiles depuis ce qui s'est passé en Angleterre. Et donc il y a vraiment, vraiment, quoi qu'il se passe au niveau politique intérieur, il y a vraiment une prime de risque qui s'est mise sur les taux anglais. Et ça, on ne revient pas dessus rapidement
depuis,
et on taille très longtemps.
Depuis l'Istras,
les taux anglais sont beaucoup plus volatiles.
Et je trouve que c'est aussi un excellent avertissement envers les partis qui sont anti-européens ou le retour d'une tentation éventuelle de sortir de l'Europe qui pourrait découler de certaines mesures ou de certaines postures, parce que la France est très protégée par le fait d'être dans la zone euro. Et justement, par rapport à la surveillance des marchés obligataires, je veux dire, la France bénéficie d'une mensuétude quand même vraiment forte de la part des agences de notation, voilà, et des... Je veux dire, alors que le Royaume-Uni, lui, il a eu un coup de bâton immédiat avec le programme de Liz Truss, par exemple. Elle a été obligée de démissionner moins d'un mois après avoir pris son poste parce que on ne lui passe rien. Donc, le fait d'être sorti de l'Union européenne pour le Royaume-Uni fait que voguer tout seul par ces temps compliqués avec des finances publiques dans le rouge, ce n'est pas un sort très enviable.
On va terminer 1:10. Là, j'ai un auditeur qui s'appelle Joël qui me dit « l'inflation revient ». On venait de dire justement, Christian, qu'on était quand même en période de désinflation.
Oui, alors attention, il y a perception peut-être de l'inflation et l'inflation...
2,1%
voilà, mais aujourd'hui, alors sur les derniers chiffres de l'INSEE, sur le panier de l'INSEE qui est représentatif, actuellement, on ne peut pas dire que l'inflation revient. Elle peut être un petit peu volatile, il y a des effets de base, des choses comme ça qui font que je ne vous dis pas qu'on ne va pas remonter un petit peu dans les prochains mois, mais ça restera une volatilité limitée et on va voguer autour de 2, de 3 à mon avis dans les prochains mois. Donc on ne peut pas dire que c'est une vraie inflation qui reviendrait et qui s'auto-alimenterait comme on a pu le craindre il y a encore quelques mois.
Merci à vous trois, la facture folle à la une de Challenge, à la lecture des programmes du RN et du Nouveau Front Populaire. Merci Gaël Mac, merci Christian Parizeau, Léonidas Kalogiropoulos. Rendez-vous demain à 9h.
Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.